Lire.
Oui dire.
Oui dire.
Oui dire.
Oui dire.
Oui dire. Oui dire.
Oui dire. Sur Radio Campus 93.3.
Oui dire.
Bienvenue à toutes les oreilles qui nous écoutent. Bienvenue sur Radio Campus 93.3 dans l'émission Oui dire, une émission consacrée à l'art du conte et du récit. Aujourd'hui, avec moi dans les studios, il y a Fred. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et puis Monique.
Bonjour.
Et puis Christine Buteau-Bourguignon. Oui, c'est le grand retour de Christine. Bonjour Christine, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui.
Merci, merci. Bonjour à tous.
Et puis, bien sûr, nos deux Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Pierre. Au programme, nous vous avons concocté deux belles rencontres, l'une avec le conteur Marc Bulléon, l'autre avec Guy Coulangeon, qui s'occupe de l'association L'Ivoirien, une asso qui permet la rencontre de personnes en situation de handicap et de personnes valides autour de la culture. Cette association organise notamment le festival Culture dans tous les sens. Et pour sa cinquième édition, le festival accueillait le très beau spectacle « À portée de voix » de Marc Bulléon. Un spectacle dans lequel le conteur relate l'odyssée de la création d'un spectacle conté avec 8 personnes autistes. Le ton est juste, l'émotion sincère, jamais dans la caricature. On en ressort avec le cœur chamboulé et l'esprit léger. Mais laissons le conteur Marc Bulléon nous en dire un petit peu plus.
Alors, bonjour Marc Bulléon.
Bonjour.
On vient de te voir dans un spectacle à portée de voix dans le cadre du festival Dans tous les sens. Et on va discuter un petit peu avec toi et tu vas nous dire qui tu es, d'où tu viens. Et après, on parlera de ce beau spectacle qui nous a tous et toutes émus.
Bien, donc d'où je viens ? Je viens, si je remonte loin, je viens d'une famille où il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants, beaucoup, beaucoup de bruit, et pas forcément beaucoup, beaucoup d'histoires. Voilà. Ensuite, les études, on ne va pas en parler, parce que c'est pas très brillant et pas très intéressant. Et après, j'étais ébéniste, donc, ouais. Et j'ai travaillé longtemps tout seul dans mon atelier. Ébéniste de campagne, hein, c'était pas forcément des meubles extraordinaires, mais par contre, c'était des meubles du quotidien, beaucoup, assez beaux, des vieux meubles. Et maintenant, avec le recul, à 57 ans, je me dis que finalement, dans cet atelier où j'étais tout seul... à travailler, à raboter, etc. D'une certaine façon, peut-être c'était une étape, l'étape qu'il me fallait pour retrouver la parole. Bien. Voilà, et j'ai fait ça pendant jusqu'à, je sais pas, 35 ans par là. En parallèle avec d'autres choses, la musique qui m'a toujours accompagné, l'écriture qui m'accompagne depuis mon adolescence. Puis après, il y a eu des choses de transition qui m'ont amené au conte, mais enfin, beaucoup de la musique et l'écriture.
Alors, tu dis des choses qui t'ont amené au conte. Est-ce qu'il y a des gens particuliers que tu apprécies au niveau du conte dont tu...
Des rencontres
qui...
Alors, il y a plein de gens que j'apprécie, ça, c'est sûr, parce que je trouve que c'est quand même un milieu qui, où il y a vraiment beaucoup de belles gens. Par contre, non, c'est pas des gens qui m'ont donné envie parce que je ne connaissais rien au conte, absolument rien. Ça s'est fait un peu par hasard. Un jour, j'ai eu envie, moi, de monter mes spectacles solo. Donc, j'ai monté Le Déluge. On a peur de rien hein, quand on commence. Avec Manipulation d'objets. Si on a le temps, j'en reparlerai tout à l'heure. Puisque je sortais de l'ébénisterie, donc j'avais fabriqué plein de choses. Et le deuxième spectacle, L'Odyssée. Toujours peur de rien. Voilà. Et puis un jour, quand même, les vagues conteurs que je connaissais me disaient il faudrait peut-être que tu te formes quand même. Mais c'était au bout de 5 ans. Hein, Et j'ai pris des renseignements, puis j'ai appris qu'il y avait un certain Bruno de la Salle qui avait fait une certaine odyssée et un certain déluge. D'accord. Alors je me suis dit, bon là, quand même, il faut être un peu sérieux, il faut peut-être aller voir. Alors là, j'ai travaillé 2 ans avec Bruno dans Fahrenheit, là, en 98 et 99, je crois. Ce qui m'a vraiment apporté énormément de choses. Et peut-être la chose la plus grande que ça m'a apporté, c'est l'exigence.
Et ça t'a conforté dans ton choix de
conteur. Ah oui, complètement. Puis c'était une année, enfin des années bénies, parce qu'il y avait à Fahrenheit, il y avait des gens de je sais pas combien de pays du monde. Enfin, moi, ça, j'ai rencontré tout, enfin tout ce qui est de la base actuelle de mon réseau d'amis conteurs là-bas. Mais c'est des dizaines et des dizaines de personnes.
Tu parles, alors je ne connais pas tes premiers spectacles, je connais Chaka, donc À portée de voix, La géométrie des silences, ces deux derniers spectacles qui sont faits avec des personnes autistes. Chaka qui raconte l'histoire d'un dictateur sanguinaire. Tu ne choisis vraisemblablement jamais la facilité. C'est toujours des spectacles quand même un peu risqués. Alors pourquoi ces choix et à quoi tu fais attention pour ne pas caricaturer.
Alors pourquoi ces choix, je serais incapable de répondre. C'est a posteriori peut-être qu'on peut répondre. Mais si tu veux, en fait, se développe à moi un moment l'envie de travailler sur un récit particulier. Alors c'est vrai que je suis plus proche des grands récits que des contes traditionnels, etc. Encore que j'aime bien, je raconte encore de temps en temps pour les enfants, et j'aime bien ça. Mais il y a quelque chose qui me fascine dans ces grands récits qui ont traversé le temps, ou dans ces grands récits contemporains qui sont donc des souvent issus de collectages, comme là, La géométrie des silences ou À portée de voix. C'est, je trouve, sont des paroles qui ont une dimension. Forte et j'aime ce type de parole. Après, pourquoi je choisis ça, j'en sais rien. Les spectacles sur l'autisme, c'est vraiment issu d'une rencontre avec des gens qui m'ont. Il y a une belle rencontre humaine, comme on en fait souvent dans la vie, enfin parfois, au moins souvent, j'espère. Puis l'envie de continuer cette rencontre, ce compagnonnage, comme j'appelle ça. Chaka, c'est un livre qui m'a bouleversé au départ. C'est le plus noir du monde, mais il y a un peu de lumière quand même. En fait, peut-être c'est ça qui me fascine, c'est que là-dedans, il reste toujours un petit peu de lumière et qu'on peut aller la chercher. Le prochain spectacle, qui va être prêt à la fin du mois de mai, là, c'est sur Babel, donc sur le mythe de la tour de Babel, dans une lecture assez politique, avec manipulation d'objets. Reviens à ça, et ça c'est la suite des deux spectacles sur l'autisme où j'ai beaucoup travaillé autour de la notion de silence et de langages différents les uns des autres, et je me suis dit bah tiens, j'aimerais bien faire un spectacle où je suis moi conteur presque muet, presque mutique, et dans Babel les 12 premières minutes je ne prononce pas un mot, et en gros en français compréhensible je dois parler 15 minutes sur 1h10 de spectacle.
Mais tu es aussi musicien dans Chaka, tu joues beaucoup dans le spectacle qu'on vient de voir, pas du tout, et dans ton prochain spectacle.
Pas du tout. Sauf que, en fait, les gens me renvoient ça, ils me disent « mais pourquoi tu fais plus de musique ?» Et moi, j'ai l'impression d'en faire toujours. Parce que la musique, elle n'est pas juste dans l'instrument, elle est dans la voix, bien sûr, mais elle est surtout dans le rythme qui est emmené, dans mélodie des différents personnes, de la voix des différents personnages, là par exemple dans La portée de voix, ça c'est assez frappant. Et puis, ouais, pour moi, beaucoup dans les silences, dans la construction autour des silences et dans les sons, voilà, on peut appeler ça de la musique contemporaine peut-être. Dans Babel, j'ai fabriqué plein de manivelles, de petits machins, de trucs, et tout fait du bruit en fait. Mais sauf que, on peut considérer que c'est du bruit, sauf que si ces bruits sont arrangés, organisés, ça devient de la musique.
D'accord. Et alors, où est-ce qu'on pourra voir ces spectacles ?
Alors, Babel, ça va commencer, les premières sont en mai, donc on va les voir à Nantes. Ce sera au Festival du Conte de Chigny, en Belgique. Après, au Festival d'Angoulême. Enfin, voilà, il va y avoir différentes dates. Tout ça, c'est sur mon site, marcbuléon.com, j'en profite. voilà, en gros, sinon, il y a d'autres propositions, donc aux Arts du Récit en mai. Et puis, bon, il y a des dates un peu partout. Là, je parle vraiment de ce que j'appelle, moi, les grands récits. Parce que, bon, c'est vrai que, voilà, tu me parles de ça, mais encore une fois, j'aime beaucoup aussi aller raconter devant des petits hauts et puis travailler sur des contes plus... des contes vraiment, quoi, qui ne sont pas des grands mythes ou des épopées.
Bien, je peux dire quand même, parce que je fais un stage sur le rythme avec toi, que Marc Buléon est très fort pour faire travailler les gens sur le rythme de la parole. C'était assez impressionnant, extraordinaire, si vous voulez faire un stage sur le rythme. Et puis...
Il y a plusieurs choses qui m'intriguent, parce que c'est vrai que pour sentir ce... ce noir, comme vous dites, pour aller chercher, enfin voir encore cette dernière lumière, cette petite lumière là au fond de chacun, soit une énorme sensibilité. Hein. Et c'est le parcours de la vie, évidemment, qui développe cette sensibilité. Hein. Mais comment vous vous êtes aperçu de ça, justement, que vous pouviez aller vous accrocher aux petites lumières, aux petites profondeurs des gens, pour les tirer vers le haut, en tout cas au moins vers la lumière.
Alors, quand j'utilisais cette expression-là, je parlais de chacun le spectacle, hein, et pas de chacun les personnes. Parce que si c'est vrai pour chacun, puis je peux répondre tout à l'heure à la question, en ce qui concerne les personnes autistes, je les trouve d'emblée très, très, très lumineuses. Donc je n'ai pas à faire cet effort-là. Elles font plutôt rejaillir de la lumière chez moi, c'est plutôt ça qui se passe. Dans le cas de chacun, ou même de Babel, puisque Babel c'est une histoire terrible, hein, quand on la lit d'une certaine façon, c'est vraiment l'avènement de la pensée unique au détriment de la personne, de la personnalité, etc. Je ne sais pas pourquoi ça m'attire, pourquoi j'ai... Peut-être ça me rassure de penser que pour moi aussi, il y a peut-être une petite part de lumière quand même.
Merci. Oui dire sur Radio Campus 93.3.
Vous êtes bien sur Radio Campus Clermont-Ferrand 93.3 dans l'émission Oui Dire. Nous avons eu le plaisir d'entendre l'interview du conteur Marc Bulléon que l'équipe de Oui Dire a rencontré le mercredi 10 avril, rien que pour vous. Mais ce que l'on préfère chez un conteur, c'est l'entendre conter. Et Marc Bulléon s'est prêté au jeu pour nous, pour vous. Et il a bien choisi son histoire, puisque je vous le rappelle, ces sons ont été pris lors du festival Culture dans tous les sens, organisé par l'association L'Ivoirien. Alors, chers auditeurs, fermez les yeux, imaginez-vous sur la terrasse de la Maison de la Culture, respirez et écoutez.
Il y avait un aveugle qui marchait dans le désert. Il chantait. Quand tu l'écoutais, tu sentais quelque chose de très doux, de très fragile, qui remontait jusqu'à ton cœur, comme ça. Tu l'écoutais aussi longtemps que tu pouvais, puis quand l'aveugle s'arrêtait de chanter, tu mettais la main au fond de ta poche, puis tu lui donnais ce que tes doigts trouvaient. Des fois, c'était une olive, des fois, c'était une petite pièce d'argent, un morceau de pain. Puis si tu n'avais rien... Bah, tu prenais l'aveugle dans tes bras, puis c'était suffisant. Cet aveugle-là, il n'avait pas toujours été vieux ou adulte. Il avait toujours été aveugle, ça oui. Mais il avait été enfant aussi. Et quand il était enfant, il vivait dans une ville. Et tous les matins, il partait sur la place du marché, puis il mendiait. Toute la journée, il mendiait. Il était assis sur un petit mur, il tendait la main, puis... Les gens lui donnaient ceci, cela, un peu de nourriture, un petit peu d'argent. Il emmagasinait tout ça précieusement dans un sac en cuir, dans une petite besace qu'il avait toujours avec lui. Et puis, quand arrivait le soir, il s'installait devant sa cabane, il déballait tout ça là, par terre, puis il triait ce qu'on pouvait manger aujourd'hui, puis ce qu'il fallait garder pour demain. C'était comme ça tous les jours de sa vie. Et un matin, alors qu'il était assis sur son muret à mendier, il a entendu un homme s'approcher de lui. Il a reconnu un vieillard à la voix. Et le vieillard a déposé dans ses mains un bâton en lui disant « Prends-en bien soin. » Le garçon a remercié, puis le vieillard est parti. Le garçon a laissé ses doigts courir sur le bâton pour découvrir ce que c'était que ce bâton. C'était un bâton assez long. L'écorce était, c'était un vieux bâton, l'écorce était toute fissurée, toute boursouflée, cassé par endroits. Puis il s'est rendu compte qu'en laissant courir ses doigts comme ça, ses doigts pouvaient déceler des lettres dans les fissures, dans les entailles du bois comme ça. Il s'est rendu compte que ces lettres formaient des mots et que le bâton lui parlait. Alors il l'a gardé bien précieusement, ce bâton, avec lui. Et ce bâton, c'est devenu son compagnon, c'est devenu son guide, c'est devenu son ami. Partout où il allait, il emmenait son bâton. Quand il a grandi, il a quitté la ville, il a commencé à voyager, toujours avec son bâton. S'il arrivait à la croisée de deux chemins, il s'arrêtait, prenait son bâton, laissait ses doigts courir sur le bâton, et si le bâton lui disait « prends sur la droite », il obéissait. Et il ne le regrettait pas. Un peu plus loin, il y avait un paysan en train de manger qui lui proposait de partager son repas. Si le bâton lui disait « prends sur la gauche », il allait sur la gauche. Puis un peu plus loin, il y avait un arbre couvert de fruits, mûr à point. S'il arrivait devant une source, il s'asseyait, il prenait son bâton, laissait ses doigts courir. Et si la source disait, si le bâton disait, buvait pas l'eau, il attendait la source suivante. Ainsi allait la vie de l'aveugle, comme toutes les vies, avec des jours légers, des jours plus lourds, mais toujours avec son bâton. Un jour, il marchait dans le désert, avec son bâton, il chantait. Il était bien, il a marché comme ça tout l'après-midi, puis le soir, il s'est allongé dans le dos contre le sable. La nuit était tombée, il regardait les étoiles dans le ciel, il chantait. Il a chanté longtemps, 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 puis il a fini par s'endormir. Au petit matin, il a fait comme il faisait tous les matins. La première chose, c'était de prendre son bâton et de laisser ses doigts courir dessus pour que le bâton lui dise ce qu'il allait vivre ce jour-là. Il a laissé ses doigts courir sur le bâton et le bâton lui a dit « Tu vas mourir aujourd'hui ». Alors l'aveugle a pris son bâton, il l'a lancé au loin. Il a dit « Mais comment ça, je vais mourir aujourd'hui, je ne suis pas vieux moi. Hier encore je chantais pour les étoiles, pour la lune. Je ne suis pas malade, pourquoi je devrais mourir ?» Puis il s'est dit « Peut-être que je l'ai pris à l'envers ce bâton, peut-être que ce n'est pas ça qu'il me disait ». Alors il s'est mis à chercher à quatre pattes dans le sable, il a cherché le bâton, mais il était aveugle, puis il l'avait lancé loin, il ne l'a pas trouvé. Il a cherché longtemps, il s'est obstiné, mais il ne l'a pas trouvé. Pour finir, il a trouvé un autre bâton. Il s'est dit qu'il lui fallait bien un bâton pour marcher de toute façon. L'écorce de ce bâton-là n'était pas très intéressante, le même motif se répétait à l'infini. Mais bon, il a pris le bâton. Il a fait trois pas, puis il a senti une brûlure terrible dans sa main. Ce qu'il avait pris pour un bâton n'était rien d'autre qu'un serpent gelé par le grand froid de la nuit du désert. Et en le prenant dans sa main, l'aveugle avait réchauffé le serpent. Et le serpent, lui, avait mordu la main de l'aveugle. Si un jour tu vas dans le désert, prends le temps de dormir sur le sable, bien emmitouflé parce qu'il fait froid dans le désert. Prends le temps de regarder les étoiles et puis d'écouter le vent. Et tu entendras la voix de l'aveugle et tu sentiras quelque chose de très léger, de très fragile, remonter jusqu'à ton cœur.
كل ليلة نرقص مع جمال العام. علاش الحب حاجة شمس قبل بحب الصحراء والرحام راني صرت عبد الغرام وواش الحب حاجة شمس قبل بحب الصحراء والرحام مرحبا بالسودان مرحبا بالرحام بولادي فلان بولاد بابولو مرحبا بالسودان مرحبا بالرحام بولادي فلان مرحبا تيتي
Vous êtes toujours sur Radio Campus Clermont-Ferrand sur 93.3 avec à l'animation aujourd'hui Fred Lanor, Monique, Pierre, Fred Chat, Christine, donc moi, et notre indispensable technicien Pierre, bien sûr. Nous venons d'entendre Titi Robin qui jouait Le Désert, extrait de l'album Les Rives. Mais l'émission continue avec une autre interview. Comme vous le savez, le festival Culture dans tous les sens a à sa tête depuis 5 ans Guy Coulangeon, qui grâce à Monique nous a dévoilé la naissance du festival et bien d'autres choses encore. Pierre, je te laisse envoyer l'interview de Monique pour Oui Dire, qui est bien connue de notre invité.
Bon, allez.
Bonjour Guy.
Appelez-moi votre nom.
Monique, entre nous, c'est la deux crampons entre nous. Hein.
Ah,
c'est
oui.
Une vieille histoire.
Ah hein. Mon vieux.
C'est une très vieille histoire.
Et ça tient toujours. Ouais, il me cramponne.
Ouais. Ouais, oui. Alors moi aujourd'hui donc je viens donc t'interviewer par rapport au festival Culture dans tous les sens. Voilà donc déjà mes premières questions ça va être quel a été ton parcours avant un petit peu Culture dans tous les sens et ton arrivée à Clermont, voilà si tu peux un petit peu nous parler en deux trois mots de ce que tu étais avant Culture dans tous les sens.
Eh bien en deux trois mots, je suis originaire de la région, est-ce que ça suffit?
Oui.
Non.
Bon,
d'accord.
Tu peux compléter un peu.
Non, mais écoute, moi je suis originaire donc de je suis pas un Auvergnat, je suis un Bourbonnais parce qu'ils vont pas tout comprendre les torchons et les serviettes. Et donc donc je suis un Bourbonnais et j'ai pas mal bourlingué un peu partout en France, j'ai même vécu à l'étranger. Et donc je suis miro, bigleux, voilà, ou aveugle comme on veut, comme c'est pas important. Et depuis une trentaine d'années, je fais du théâtre. J'ai commencé à Paris, j'ai tourné à Nice, Vienne, et puis bon, je trouvais que Nice était trop loin pour moi. Excusez-moi, je m'excuse auprès des auditeurs de Radio Campus. Nice, c'est le trou du cul du monde. Voilà, je l'ai dit. Ça y est, c'est dit, voilà. Et c'est vrai que quand on veut se déplacer quelque part, par exemple, si je voulais aller voir Marc Bouillon, qui est un super conteur. Du côté de Nantes, ben, ça fait pas mal de kilomètres, bien que j'ai déjà fait Nice, Belle-Île-en-Mer, ce qui était pas mal non plus, quoi. Voilà. Et donc là, ben, je suis revenu il y a 9 ans à Clermont-Ferrand, où j'ai créé l'association L'Ivoirien, dans le but et la mixité entre personnes en situation de handicap et personnes valides, avec la mise en place de projets culturels divers et variés. Et depuis 5 ans, donc, on a créé Culture dans tous les sens. Nous sommes encore à la maternelle, j'aime bien le dire. Et l'année prochaine, pour la 6e année, on va peut-être passer en primaire.
Donc, en fait, même dans tes spectacles et dans tout ce que tu as fait au niveau du théâtre, il y a toujours, comme tu l'exprimes, une mixité, c'est-à-dire que tu as toujours intégré des personnes en situation de handicap et des personnes qui n'étaient pas en situation de handicap, bien qu'on est tous un petit peu handicapés,
oui.
Voilà. Et donc, aujourd'hui, avec tout ce recul, qu'est-ce que ça t'a apporté? Enfin, qu'est-ce que tous ces échanges et cette. Est-ce que tu as trouvé que ça t'avait enrichi?
Quand j'ai commencé il y a 9 ans sur Clermont-Ferrand à faire je dirais, cette association basée sur la mixité culturelle et mixité entre monde ordinaire et monde de l'handicap, j'ai été totalement inconscient. J'étais totalement inconscient parce que, bon, je suis arrivé le 14 août et puis un mois après, j'étais en train de lancer culture dans tous les sens, créer des ateliers de théâtre et tout et tout. Et deux heures avant le premier atelier de théâtre, j'ai eu une lueur de lucidité. J'ai dit, ça marchera jamais ton histoire, t'es complètement taré comme garçon, mais t'es complètement malade. Et puis, ben, depuis 9 ans, voilà, c'est super parce que bon, au sein de l'Ivoirien qui supporte ce festival, eh bien, on grandit vraiment beaucoup, on s'ouvre vers un maximum de personnes. Et puis, eh bien, on a créé ce festival et là, cette année, c'est encore un autre cran supérieur parce qu'on a de plus en plus d'institutions et surtout, eh bien, le monde ordinaire des valides s'est vraiment intégré à travers des enfants. On a eu des écoles maternelles, on a eu des écoles qui ont participé à ce festival et puis bon, de plus en plus de monde qui viennent assister au spectacle, qui viennent participer à des moments conviviaux. On a fait un rallye pédestre, gourmand et culturel à la découverte de Clermont-Ferrand. Eh bien, on est obligé de refuser du monde. Voilà, c'est inouï comment on commence à grandir. Et puis bon, on a quand même aussi choisi des lieux intéressants de la ville de Clermont-Ferrand, comme la Maison de la Culture, comme la Chapelle des Cordeliers pour des expos, oui. et d'autres lieux. Et voilà, c'est vrai que quelque part, je suis le moteur de ce festival, mais vous êtes, vous toutes et vous tous, les médias aussi, le carburant qui fait grimper cette fusée. Et bon, voilà, on n'a pas encore perdu notre premier étage, mais bon, ça vient tous les jours. Et voilà, moi, je suis très, très heureux d'avoir autour de nous des gens motivés, des gens ouverts. Et c'est pour moi, c'est un vrai bonheur de côtoyer vous côtoyer toutes et tous. Et ce qui me touche le plus, c'est, à part le monde des valides qui entre de plus en plus dans la mixité, c'est ce monde de l'handicap qui parce qu'on reçoit toutes formes d'handicap mental, physique, sensoriel et tout et tout. Et ce qui me touche beaucoup, c'est ce monde de l'handicap intellectuel, cet handicap mental, parce que on a beaucoup à apprendre. Ils sont tellement naturels, ils sont vraiment ils sont vraiment dans ce festival. C'est un festival qui quelque part leur appartient, et puis ils ont envie d'aller voir les autres, hein. Ça c'est super. Moi ce que j'aime beaucoup mais faut que je me protège un peu aussi, c'est que maintenant que je connais beaucoup d'handicapés intellectuels principalement, qui sont très vivants, très sympas avec moi, c'est que aussitôt que je les rencontre dans la rue, salut Guy, tu vas bien et tout et tout, et il y en a quand même beaucoup. Bon, ça me gêne pas trop, et au contraire, je suis là pour les saluer. Je suis pas une vedette de Clermont. J'ai envie de rester moi-même, et ça c'est super important, quoi.
Et je pense que ton désir premier, c'était de vraiment instaurer une mixité qui est dans ce festival, autant de personnes en situation de handicap que de personnes invalides et invalides. Et est-ce que tu y es arrivé? Est-ce qu'il y a vraiment... peut-être pas 50-50, mais enfin, est-ce que tu es arrivé à peu près à ce qu'il y ait vraiment une mixité, quoi, qu'il y ait autant de spectacles, de personnes qui connaîtraient même pas le milieu du handicap, hein, et qui
la première édition de Culture dans tous les sens, on avait à peu près 5% de personnes valides qui participaient, et maintenant je dirais qu'on est à 30% au bout de 5 ans, je dois pas me tromper de beaucoup, 30%. Mais on n'a pas assez fait la promotion avant du monde de l'handicap, et il y a des super spectacles, vraiment de très très belles choses, des super spectacles, des produits d'art plastique qui sont vraiment géniaux. Et nous, ce qu'on a remarqué pour que cette mixité augmente et puis pour que les gens vraiment se côtoient de plus en plus, eh ben, on est obligé de créer des idées. Par exemple, comme idée, eh ben, on fait pas uniquement des repas les yeux bandés, parce que ça, c'est, Bon, allez, on va dire que c'est vulgaire, ça existe depuis presque la nuit des temps. Jésus n'était pas né, ce qui paraît. Voilà. Et donc maintenant, on crée des apéros dînatoires, les yeux bandés, les apéros. Et c'est vachement plus sympa. Alors les gens sont un peu estomaqués. Ils viennent et puis bon, ils se rendent même pas compte à qui ils parlent, quoi. Il y a ça. Bon, on fait aussi des après-midi jeux. Alors les gens, ils viennent jouer. Bon, il y a pas, c'est pas des jeux d'argent. Hein, c'est pas la peine, vous qui avez plus de sous en ce moment, de venir nous trouver. On n'en a pas non plus. Nous, c'est plutôt des jeux de société, quoi. Donc, ils viennent participer à des jeux de société. Et là, la mixité se fait. On se rend même pas compte qui est handicapé, qui ne l'est pas. Alors, ça, vous voyez, c'est des idées comme ça, quoi. Ce rallye, là, voilà, où on comptait, où les mettre 6 équipes, on était à peu près à 48 personnes. Et ben, on a été embêtés parce qu'on s'est retrouvé avoir 30 réservations en plus. Alors, on était obligé de les refuser. Ah oui. Et voilà, il y a des choses qu'on oublie. Voilà. Et ça, on se rend compte que ça va être un outil dans les prochaines éditions pour pouvoir faire cette mixité. Ça, parce que en même temps, on leur permettra de jouer avec de l'inconnu. Ce qui fait peur à l'être humain, c'est l'inconnu de l'autre. Oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau, la différence? Qu'est-ce que c'est beau? Vous savez, on a été foutre le souk. Oui, je parle pas très bien, mais je m'en fous. On a été foutre le souk sur la place de Jaude, là. Là, le 16 mars de cette année 2013. Donc, on a été foutre le souk. Mais c'était vraiment sympa. On avait amené il y avait des djembés, du hip-hop. Il y avait une radio le web, des choses comme ça, sur la place de Jaude. Et ben, c'était incroyable. Plus des mascottes, c'était incroyable le nombre de gens qui sont venus nous voir, qui sont venus voir des handicapés, des personnes en situation de handicap. Et pour eux, ils venaient pas voir des personnes en situation de handicap, ils venaient passer un bon moment et tout. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi que je dirais, on ne peut pas dire que les personnes handicapées, donc des personnes ordinaires, je dirais, il faut pas leur en vouloir de ne pas aller voir le monde de l'handicap. Il faut pas leur en vouloir, c'est qu'ils ne nous connaissent pas. Et je dis, c'est nous aussi, personnes en situation de handicap, qu'il faut aller vers l'autre, aller leur apporter quelque chose, le petit plus, le petit plus qu'on a tous.
Est-ce que ça a vraiment fait émerger des œuvres et des spectacles importants qui restaient dans les établissements et qui n'étaient pas mis en valeur ou juste internes à l'établissement? Est-ce que tu as pu remarquer au fil des 5 ans là, qu'il y a vraiment des choses et importantes qui sont sorties
Alors totalement. Totalement, c'est-à-dire que les établissements préparent le spectacle pour l'année d'après, pour l'édition d'après dans le cadre de Culture Autos. Et de plus en plus. Et aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a des établissements qui se rapprochent, qui viennent des fois d'un peu plus loin, parce que bon, là, on est basé à Clermont-Ferrand. Là, cette année, on a eu des spectacles qui venaient d'à côté de Brioude, et à côté de Moulins. Donc voilà, ça fait déjà, c'est vraiment déjà de faire quelques kilomètres, quoi. Et puis bon, on a Marc Bulléon qui vient. Alors lui, c'est oh là là, c'est le bout du monde pour nous. On n'est même plus en Auvergne là-bas. Oh, c'est à la limite de la Bretagne et du Pays de Loire. Donc bon, on sait jamais chez ces gens-là où ils en sont. Non, mais j'aime bien, je suis un gros taquin. Non, mais c'est sûr que là, de plus en plus, les établissements, et puis surtout, les scolaires, les petits bambins maternels, choses comme ça, là, on va créer des spectacles avec eux.
D'accord.
Voilà, et qui vont se présenter dans tous les sens. C'est-à-dire, bon, vous savez, les enfants et les jeunes comme ça, les scolaires, pour eux, l'handicap n'existe pas, j'ai l'impression. Pour eux, bon, ils ont un copain à qui il manque une jambe, à qui il est en fauteuil roulant, à qui, bon, il est aveugle, bon, ils s'en foutent. Ils s'en foutent carrément. Pour eux, c'est un copain. Voilà, c'est tout. Mais il faut surtout pas accentuer l'idée de dire, écoute, hein, t'as ton copain qui est aveugle, tu vas lui faire de la lecture. Ah, surtout pas ça. Surtout pas ça. C'est pas le rôle. Le rôle, c'est qu'il soit un copain comme un autre. Voilà.
Voilà, écoute, je te remercie beaucoup, Guy.
De rien, madame de Compon.
Merci.
On se comprend quand, alors?
Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs c'est périssable, puis les bonbons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton. Mais je vous ai apporté des bonbons. J'espère qu'on pourra se promener, que madame votre mère ne dira rien. On ira voir passer les trains à 8 heures. Moi je vous ramènerai. Quel beau dimanche, allez, pour la saison. Je vous ai apporté des bonbons. Si vous saviez ce que je suis fier de vous voir pendu à mon bras. Les gens me regardent au travers, il y en a même qui rient derrière moi. Le monde est plein de polissons. Je vous ai apporté des bonbons. Oh oui, Germaine est moins bien que vous. Oh oui, Germaine, elle est moins belle. C'est vrai que Germaine a des cheveux roux. C'est vrai que Germaine, elle est cruelle. Ça, vous avez 1000 fois raison. Et apporter des bonbons. Et nous voilà sur la grande place. Sur le kiosque, on joue Mozart. Mais dites-moi que c'est par hasard qu'il y a là votre ami Léon. Si vous voulez que je cède la place, j'avais apporté des bonbons. Mais bonjour, mademoiselle Germaine, je vous ai apporté des bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Les bonbons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton. Allez, je vous ai apporté de bonbons.
Oui dire sur Radio Campus 93.3.
Chers auditeurs, vous arrivez seulement dans l'émission Oui Dire sur Radio Campus? Eh bien, vous en avez loupé des choses. Marc Bulléon, Guy Coulangeon, musique, Jacques Brel et ses bonbons. Mais comme nous avons tous été sous le charme de notre invité conteur Marc Bulléon, Fred Lanor vous a sélectionné des extraits de son livre « Toi, l'autre moi ». Hommage à 8 conteurs de Sésame Autisme, son atelier, que vous retrouverez ou trouverez aux éditions Mots et Couleurs. Pour effleurer... Ah, petit problème technique. Pour effleurer le travail de Marc Bulléon, vous entendrez les extraits lus par Pierre, Fred Chat, Monique, Christine, Fred Lanor. Eh bien, Pierre, ça te dit de commencer ?
Allez. On se dit que le spectacle va avoir lieu en famille, mais voilà un minibus qui arrive, puis un autre. Un autre encore. On ajoute des chaises, d'autres chaises. Et toujours afflue des véhicules dont descendent des malvoyants, des handicapés mentaux ou moteurs, des qui voudraient bien être autrement, mais qui ne peuvent pas. Des qui pourraient peut-être vivre autrement, mais qui ne veulent pas. Ils se sont donné rendez-vous ce jeudi matin, salle René Cassin, plus de 200 spectateurs. Sur la scène, 8 adultes autistes, femmes et hommes, conteurs au verbe incertain, musiciens de l'improbable. Leur plus grande victoire, se tenir devant nous, seuls sur scène. Le spectacle commence. En tant que spectateur, je me dis que je vais sûrement être ému de voir ces gens surmonter leur maladie, leur handicap. Je ne sais pas quel terme utiliser, J'ai un peu peur des mots, peur de ma maladresse quand je parle d'eux, peur de leur maladresse sur scène qui pourrait me mettre mal à l'aise. Peur de quoi en fait ? Peur de la différence ? La différence est là, je ne peux pas la nier. Silence inhabituel entre les phrases, hésitation, déplacement sans but, sans raison. Sans raison ? Sauf si j'accepte de sortir de ma propre logique pour tenter d'entrer dans la leur. Alors je perçois que les silences sont habités d'une multitude de questions auxquelles ces conteurs-là doivent répondre avant de reprendre la parole, pour que leur présence ici et à ce moment-là ait un sens. Alors, je comprends que les hésitations sont bien l'expression de l'importance accordée à chaque geste. Alors, je réalise que les déplacements sans but me parlent de l'errance de chacun de nous. Ce que je croyais maladresse réanime en moi des fragments oubliés d'intelligence. Mon regard sur l'art de raconter des histoires, ma façon d'écouter de la musique, ne pourra plus jamais être la même.
Fred Shaw.
Rebecca. Je sais pas. Les sorcières, je sais pas. Elles sont dans les histoires. Être une fée parce qu'elles sont gentilles. Je veux pas me voir dans le journal. Je sais pas. Je veux bien me voir dans le journal sans que les autres sachent, parce qu'après, il y en a qui critiquent. J'aime pas quand il y a des gens qui critiquent. Ça les regarde pas. Je sais pas.
Monique.
Dire, vouloir dire et ne pas pouvoir. Ne pas oser, ne pas vouloir. Buter, hésiter. Enfin, choisir un mot. Trouver son sens, son vrai sens, sa force. Puis le dire, syllabe après syllabe. Poser le mot, que plus personne ne pourra reprendre. Mais d'abord, le trouver, le cerner. Être sûr qu'il ne trahisse pas la pensée. Être sûr qu'il ne vaille pas mieux que le silence. Être sûr qu'il vaille mieux que la forteresse. Mot fort, indestructible, mot qui crée une brèche. La parole est fragile et puissante à la fois. Mot qui crée une brèche, plus solide qu'un rempart. Mot certitude, mot inquiétude, mot silence, dire ou se taire. Et sa propre douleur, qui la soulage au mieux ? La parole ou le silence ?
Christine.
Il est assis à la table. Il regarde le journal. Il lit un peu, regarde les photos lentement, plutôt le sport. Puis s'endort d'un coup, fatigue. Il se réveille un peu plus tard. Il nous regarde, un peu perdu, un peu coupable peut-être, à tort. Il s'éveille. Nous continuons à travailler sur le spectacle. Il nous écoute et nous lance un mot, un seul, tordu, mâché, difficile à saisir. Commence alors la quête. Quête de sens, lui demander de répéter, écouter, recommencer, écouter. Repérer une syllabe familière. Imaginer à quel mot elle pourrait appartenir. Proposer ce mot. Il n'en veut pas. Il nous redit le sien, tordu, mâché. Chercher encore. Suggérer autre chose, un verbe, un adjectif. Refus. Silence. Silence. Attendre. Respecter sa parole. Prendre le temps de la décrypter. Il nous redit ce mot. Son mot, tordu, mâché. Évidence soudaine, l'un de nous a compris et prononce le mot. Le visage de Christophe se détend, s'éclaire, sourire, soulagement. Il ne reste plus qu'à tirer le fil, détricoter ce qui a été dit ou vu ou lu dans la journée ou bien la veille pour relier ce mot à une impression. Cette impression à un événement, cet événement à un lieu, un moment, des gens. Et nous pourrons enfin formuler ce qu'il voulait dire en lançant ce mot. ce mot seul, tordu, mâché. Fred Lanor.
Je parle et je me tais. Je parle pour dire et ne pas dire. Je parle pour expliquer, mais je veux que personne n'entende. Je parle. Je parle pour que l'autre me questionne et je reste bouche bée, paralysée si l'autre me questionne. Il me faut lui répondre, mais comment lui répondre quand on n'a pas de mots pour raconter ce moi multiple que façonnent 10 facettes, 10 regards, 10 postures. Que dire? Quelle certitude? Je préfère me taire. Je parle. Tu fais comment, toi? Tu fais comment pour que se taisent tes mains? Les miennes parlent sans fin. Si je les laisse aller, elles labourent la mémoire oubliée de ma chair, me griffent jusqu'au sang avant d'enfin se taire. Mes mains voudraient savoir où mon âme est cachée. Tu fais comment, toi? Tu fais comment? Tu fais comment, toi? Tu fais comment pour que vivent tes yeux? Les miens creusent un puits bleu dans lequel tu perds pied. Ils me protègent de tes mondes incongrus. Déserts encombrés de 1000 questions perdues, mes yeux n'ont pas la force de te donner la clé. Tu fais comment, toi? Tu fais comment? Tu fais comment, toi? Tu fais comment pour maîtriser ta voix? La mienne fait des choix qui effrayent les gens. Elle cingle, elle crie. Elle hurle, elle tonitrue bon sang, elle claque comme un fouet qui inquiète les passants. Jamais ma voix ne trouvera sa voix. Tu fais comment, toi? Tu fais comment? Tu fais comment, toi? Tu fais comment pour ne pas oublier? Te rappeler le passé, les événements d'hier comme ceux survenus quand nous étions enfants. Les trous de ma mémoire retiennent dans leur maille ce que jamais sans doute vous ne serez de moi. Tu fais comment, toi? Tu fais comment?
Tu fais comment, toi?
Vous écoutez Odile sur Radio Campus.
Comment tu fais? Tu fais comment, toi?
Eh bien maintenant, ça va être à Fred Chat de nous annoncer les actus du moment, tout ce qui se passe en ce moment. Est-ce que c'est bon, Fred?
C'est bon. Alors, plein de choses cette fin de mois. D'abord, le 19e festival de Puy-de-Môme qui a commencé aujourd'hui et qui va durer jusqu'au 27 avril. Il y aura de nombreux spectacles pour les enfants, du théâtre, mais aussi du conte, des marionnettes, de la danse, de Peau d'âne à la mouette et le chat, en passant par les habits de l'empereur. Vous aurez plein... C'est un rendez-vous incontournable pour la jeunesse du département. Et vous aurez toutes les infos sur le site de la ville de Cournon. Ensuite, au centre d'ailleurs... à Chavarot, donc, le vendredi 26 avril à 20h47 précisément, on pourra écouter Les Petites Vies Ordinaires, des récits écrits et dits par Françoise Glière, accompagnée par Fabrice Goutreau à la contrebasse. C'est un spectacle à partir de 12 ans. Ce sont des histoires de vie, d'hommes et de femmes si ordinaires qu'on pourrait les croiser dans la rue sans les remarquer. Tout simplement parce qu'ils n'ont rien de remarquable. Et c'est parce qu'ils n'ont rien de remarquable qu'ils font résonner en nous l'écho de nos souvenirs, de nos rêves, de nos idéaux ou de nos peurs. Et ils nous touchent ou nous émeuvent ou peuvent même nous faire rire. 2 jours plus tard, toujours au centre d'ailleurs, à Chavarot, le dimanche 28 avril, il y aura le Festival de Poche 2013 qui durera de 10h30 à la nuit. Alors ce rendez-vous est organisé par Les Mots Bleus. C'est un festival autour du dire et du lire. Il y aura des lectures intimes, théâtrales, musicales, du conte aussi, des histoires drôles, tendres pour les grands et les petits. Voilà, une journée pour ceux qui aiment les histoires qu'on se raconte entre nous. Une journée pour découvrir les auteurs d'hier et ou d'aujourd'hui. Au programme, d'ailleurs, il y aura Fred Lanor, mais bien d'autres aussi. Allez-y, Et puis, donc, voilà, la fin des news. Alors, abandonnez vos écrans et n'hésitez pas à sortir pour régaler vos yeux et vos oreilles avec le spectacle vivant.
Oui dire, sur Radio Campus, 93.3.
Et voilà, cette émission touche à la fin. Ça va être l'heure de nous dire au revoir. Alors tout d'abord, je voulais dire un grand merci à nos intrépides intervieweuses. Ça se dit, intervieweuse ?
Hein ? Oui. On peut tous se permettre de nous jouer. Oui.
Alors merci beaucoup à Christine, merci beaucoup à Fred, merci beaucoup à Monique. Je vous dis au revoir.
Bah oui, au revoir Fred.
Au revoir.
Bonne semaine,
au revoir,
bonne quinzaine. Oui.
et puis les pierres aussi. Merci beaucoup d'avoir été là encore cette fois. Bon, je vais aller un petit peu plus vite que la musique, mais quand même, avant de nous quitter, on va vous rappeler les sites internet des différentes personnes et associations que nous avons évoquées dans l'émission. Et c'est Monique qui va nous les donner.
Alors le premier, c'est donc le site de l'Ivoirien, donc www.livoirien.fr. Alors l'Ivoirien, L2EVOIRIEN.fr. Le second, culture dans tous les sens. Alors www.culturedanstouslessens.com. Et le troisième, www.marcbuleon.com. Marc, MARCBULEON.com.
Merci beaucoup, Monique. Et puis, bien sûr, je vais rappeler l'énigme qui a été posée la dernière fois et on va enfin vous donner la réponse, même si je pense que tous les auditeurs ont trouvé depuis la dernière fois. Alors, l'énigme, c'était l'histoire d'un condamné à mort qui habite dans un pays où, quand vous êtes condamné à mort, vous avez quand même une dernière parole à exprimer avant d'être exécuté. Si vous racontez un mensonge, on vous pend. Et si vous dites une vérité, on vous coupe la tête. C'est un choix absolument délicieux. Or, ce condamné à mort précisément a dit une phrase et cette phrase lui a permis d'échapper à l'exécution. On ne l'a pas pendu, on ne lui a pas coupé la tête. Qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est Pierre, petit Pierre, qui va nous donner la réponse.
Il a tout simplement dit « Je vais mourir par pendaison ».
Exactement. Alors, je vous laisse gamberger un petit peu, mais voilà, si il dit « je vais être pendu », c'est un mensonge puisqu'il n'en sait strictement rien. Donc, il faudrait le pendre, mais si on le pend, ça devient une vérité. Donc, à ce moment-là, on devrait lui couper la tête, mais du coup, son affirmation redevient un mensonge, etc., etc. C'est un cercle vicieux et du coup, on ne peut rien lui faire à cet homme. Voilà. Alors, pour que votre cerveau continue à s'entraîner d'ici la prochaine fois, Pierre a la gentillesse de nous donner une nouvelle énigme à laquelle réfléchir.
Alors, l'énigme de ce soir n'est qu'une simple devinette, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut la sous-estimer. Attention, ouvrez vos oreilles. Quel est le point commun entre Virginie, l'ours blanc et Paris?
Et voilà, on vous laisse réfléchir. Et c'est Monique qui va clôturer cette émission.
Alors, en attendant, prenez soin de vos oreilles, dorlotez-les, chouchoutez-les
et pensez à les rapporter la prochaine fois.
Radio Campus 93.3. Oui.